le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce dimanche matin. Il est tout juste 8h30 et nous recevons aujourd'hui Marie-Christine Perry, prédicatrice pour l'Église protestante unie de France en région parisienne. Elle a choisi pour nous aujourd'hui un passage de l'Évangile de Marc au chapitre 6, un épisode qui nous raconte que Jésus marche sur les eaux. Comment croire, comment comprendre ce récit ?
Bonjour à tous. Bienvenue dans ce moment de partage autour de l'Évangile de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce temps entre parenthèses, dans notre quotidien. Posons-nous un instant, si vous le voulez bien, pour quelques minutes de méditation. Se poser. Voilà qui est difficile, alors que les médias nous inondent de nouvelles alarmantes. Les tempêtes, les ouragans et les cyclones sont malheureusement l'actualité de ces dernières semaines. Ce sont des événements climatiques terrifiants et ravageurs qui nous rappellent de façon dramatique notre petitesse et notre fragilité face aux forces de la nature. L'impuissance de notre société hyper-industrialisée et de nos super experts scientifiques face à ces cataclysmes nous désoriente. Le silence de Dieu révolte certains d'entre nous. Pourtant, la Bible ne fait pas l'impasse sur la fureur des éléments et de nombreux textes ont pour cadre la mer déchaînée et la violence du vent. Mais ce ne sont pas des chroniques météorologiques ou sociétales. N'y voyons pas non plus les descriptions littérales d'un châtiment divin. Le but de ces récits est d'abord d'enseigner, d'exprimer des vérités sur Dieu, le Créateur, et sur son dessein pour l'humanité. C'est le cas du récit que nous rapporte le Nouveau Testament et que j'ai choisi dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. À première vue, il se présente comme une histoire assez fantastique et surréaliste, mais pour en recueillir toute la saveur et l'enseignement, je vous invite à l'écouter avec un esprit ouvert et curieux, et en priant celui qui, je le crois, l'a inspiré. Seigneur Dieu, nous nous mettons à l'écoute de ce récit qui nous parvient de ta part, à travers bien des siècles. C'est par l'intermédiaire d'êtres humains ordinaires comme nous que tu as voulu te faire connaître par ces écritures que nous appelons saintes. Que ta parole nous parle ce matin, nous avons besoin de t'entendre aujourd'hui encore. Voyons d'abord ce qui s'est passé avant les événements que nous raconte le passage d'aujourd'hui. Cela fait déjà quelque temps que Jésus a quitté son métier de charpentier pour arpenter les routes de Galilée et de Judée, prêchant, enseignant et accompagnant son message par des signes extraordinaires. Il est suivi par des disciples, dont 12 apôtres, qu'il a appelés au début de son ministère. La renommée de Jésus s'est répandue dans tout le pays. Et il a beaucoup de mal à échapper à la foule qui vient vers lui pour être guéri. Où qu'il aille, même dans les lieux déserts, la foule le trouve. C'est ce qui s'est encore passé au bord de la mer de Galilée, où il les a non seulement enseignés, mais encore nourris, en multipliant pains et poissons à l'attention de 5000 personnes. Nous le retrouvons donc là, en compagnie des apôtres. Le passage que je vais vous lire se trouve au chapitre 6 de l'Évangile de Marc. Ce sont les versets 45 à 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul, à terre. Il vit que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient terrifiés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Jésus marchant sur les eaux. Comme pour tous les événements extraordinaires relatés dans la Bible, une certaine incrédulité est de mise de nos jours et beaucoup cherchent à minimiser les miracles, à les ignorer ou encore à les expliquer scientifiquement. Je ne chercherai pas à prouver la véracité du phénomène ici relaté, mais je ferai simplement remarquer que marcher sur la Lune a pendant des siècles fait partie des fantasmes que l'on croyait irréalisables et que parler en direct avec une personne au bout du monde n'était même pas concevable. Où commence le miracle? Où commence la science? Là n'est pas mon propos. Sortons plutôt de l'approche littéraire et matérielle de ce récit pour y discerner la réalité spirituelle. Une réalité qui s'adresse à chaque homme, chaque femme, de tous les temps, de toutes les origines, de toutes les cultures. Le récit lui-même est vivant, imagé. On pourrait le transposer en un court-métrage. Voici les acteurs. D'abord, une foule, nombreuse, anonyme, importune. Des disciples qui suivent Jésus depuis quelque temps déjà. On en retiendra 12, qui sont les apôtres, montés dans la barque. Et puis, Jésus de Nazareth. Le lieu de l'action, le lac de Génézareth, ou mer de Galilée, au nord d'Israël. Ses abords et sa traversée. L'époque, elle n'est pas spécifiée par l'auteur du récit. Gros plan sur la barque, agitée au milieu des flots, et sur les passagers, ramant avec ardeur contre le vent, qui ramène sans cesse en arrière la frêle embarcation. Voici des heures qu'ils rament. Ils n'ont parcouru que 5 ou 6 kilomètres. Reste encore la même distance à franchir, et la nuit touche à sa fin. Oh, ils doivent râler, ces braves apôtres. Pourquoi Jésus les a-t-il obligés à prendre le large, alors que déjà le vent se levait? Oh, ils sont maintenant fatigués, harassés, découragés et même inquiets. Les voici donc en train de ramer, au sens propre et au sens figuré. Mais que fait donc leur maître? Où est-il? Pourquoi les a-t-il abandonnés? Car Jésus n'est pas avec eux, il est resté à terre. Ils rament et Jésus prie. Il est monté dans la montagne, aux abords du lac, un détail qui nous rappelle d'autres montagnes de la Bible. Lieu privilégié de la rencontre avec Dieu, symbole de l'esprit s'élevant vers Dieu dans le silence, la méditation et la prière. Jésus prie. Pour eux peut-être. On ne sait pas. On l'imagine. Il est dans la montagne, il prie et il les voit. Il voit les disciples qui avaient beaucoup de peine à ramer, dit le texte. Il est encore à terre, il n'est pas dans la barque, mais il les voit. Ils sont pourtant loin maintenant, et il fait nuit encore. Comment donc peut-il les voir ? Il les voit, mais il ne fait rien. Il attend. Comme c'est étrange. Cependant, il voit bien qu'ils ont de la peine, qu'ils sont éprouvés et peut-être en danger. Il semble les laisser dans leur galère, dirions-nous. Pourquoi donc ? Pourquoi Jésus n'est-il pas venu plus tôt et les a-t-il laissés ramer pendant presque toute la nuit ? Jésus attend. Plusieurs fois dans les évangiles, nous voyons que Jésus attend avant d'intervenir. Dans le récit de Marc aussi, Jésus va attendre. Il a renvoyé ses disciples, il a pris du recul en restant à terre, et il les a livrés à eux-mêmes. Dans cette lutte contre le vent, ils sont seuls. Mais ils vont ramer d'un commun effort et s'accorder dans un même rythme pour affronter le vent contraire. Leurs différends, leurs disputes, leurs jalousies n'ont plus d'importance. Leur individualité s'estompe. Il leur faut faire cause commune dans cette épreuve. N'est-ce pas ce que Jésus attendait ? Cette épreuve vécue en commun n'est-elle pas indispensable pour poser les bases de leur fraternité encore précaire ? Ainsi, on constate que c'est malheureusement dans la persécution que l'Église est la plus vivante, que l'entraide et la fraternité sont les plus fortes. On se serre les coudes en quelque sorte. On peut se demander si ces hommes, juifs, certainement religieux, ont invoqué le secours de l'Éternel leur Dieu dans cette tourmente. Ont-ils prié ? Cela ne nous est pas dit. Peut-être que dans leurs efforts pour se sortir de cette situation difficile, ont-ils mis leur confiance dans la force de leurs muscles plutôt que dans l'intervention de Dieu ? C'est là une attitude bien humaine face aux difficultés de la vie, même si l'on professe être croyant. On croit pouvoir s'en sortir tout seul. Pourtant, j'ose imaginer tout de même qu'à un moment donné, devant l'inutilité de leurs efforts en dernier ressort, ils ont prié pour le secours de Dieu, si ce n'est à haute voix, du moins dans leur cœur. Et c'est peut-être bien ce qui a déclenché la venue du Seigneur. Jésus vient. Il vient à leur rencontre et d'une façon pour le moins fantasmagorique. La nuit recouvre encore la terre, la mer sombre et profonde est comme un abîme effrayant. Le vent souffle assourdissant et violent. C'est une vision qui nous rappelle les origines comme nous le décrivent les premiers versets de la Bible. Dans la Genèse, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ainsi que Jésus se meut à la surface de la mer cette nuit-là. Un parallèle qui n'est pas anodin. Jésus révèle là l'aspect divin de sa personne. Il n'est pas astreint aux lois de l'attraction terrestre. Il domine les éléments. La mer et le vent lui sont soumis. Les disciples avaient déjà été témoins de guérisons miraculeuses. Ils l'avaient vu délivrer des hommes et des femmes possédés d'esprits mauvais. Ils l'avaient même vu ressusciter une petite fille morte de maladie. Ce même jour encore, il avait multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5 000 personnes. Les disciples l'avaient suivi depuis longtemps maintenant, et ils avaient été témoins de tout cela. Mais avaient-ils réellement compris qui était celui qu'ils appelaient leur maître ? Marc nous dit que leur cœur était endurci. Leur cœur n'avait pas été touché par tout ce qu'ils avaient entendu et vu. En fait, ils ne voulaient pas comprendre. Pour eux, Jésus était un être fabuleux, un prophète pourvu de dons extraordinaires. Ils le suivaient comme des disciples leur maître, mais ils n'avaient pas vu et accepté Jésus dans sa nature de Seigneur, c'est-à-dire divine. Alors, lorsqu'ils le voient à côté de leur barque, marchant sur les eaux, ils ne le reconnaissent pas. Il leur fait peur. Il crie. « Les apôtres n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont eu peur. Cette apparition marchant sur la mer les a terrifiés. Alors, Jésus se fait connaître. Jésus leur parle. Ce n'est que lorsque Jésus leur a parlé que les disciples l'ont reconnu. Jésus leur parle, il les rassure. C'est ainsi que Jésus se fait connaître aujourd'hui encore. Nous pouvons le voir de nos yeux, mais nous pouvons le découvrir à travers la parole qu'il nous a laissée. C'est un peu comme un parent que nous n'aurions pas connu de son vivant et que nous découvririons par sa correspondance ou son journal intime. Jésus nous a laissé sa parole. Nous l'appelons testament, le Nouveau Testament. Jésus se fait connaître. Ce que Jésus révèle aux apôtres, il nous le révèle aussi, et c'est grand. C'est comme une lumière jaillissant dans la nuit, comme une puissance dominant les tempêtes de nos vies bousculées. « Ego eimi, c'est moi, » dit-il. Ou plutôt, « je suis ». Ainsi, Jésus leur révèle qu'il est de toute éternité. Il est Yahvé, le « je suis celui qui est » qui se révéla à Moïse. Ce n'est plus un être fumeux, irréel, inconsistant. Cet homme que les apôtres ont suivi depuis tout ce temps dans les chemins de Judée et de Galilée, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui marche sur la mer, qui leur parle et qui va même monter dans la barque avec eux. Le Créateur, dans sa mission de sauveur, vient vers eux. Il monte dans la barque et le vent de la tourmente se calme. On peut refermer là notre Bible et faire autre chose. Mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Peut-être pensez-vous, je suis chrétien, chrétienne depuis l'enfance, je crois que Jésus-Christ a existé et je vais à l'église ou au temple de temps en temps, pour les grandes fêtes ou les grands événements de ma vie. Oui, je crois bien que je connais Jésus. Certains diront même, j'ai déjà lu les évangiles. Je suis allé à l'école du dimanche ou au catéchisme. Tout cela, c'est bien. Mais à vrai dire, en y réfléchissant, ne voyez-vous pas Jésus comme le firent les apôtres, c'est-à-dire comme un fantôme, un être mythique, irréel, sans véritable consistance, un prophète des temps anciens, un sage parmi d'autres, un personnage exceptionnel, mais lointain. Il n'est pas dans votre barque, dirions-nous. En ce moment, vous avez peut-être l'impression de ramer contre des vents contraires, de ne pouvoir vous sortir d'une situation inextricable, au travail, dans votre vie sentimentale ou familiale, dans un endettement sans fin, dans des recherches harassantes et décourageantes pour un emploi, un logement, dans un combat contre la maladie. Vous avez peut-être l'impression d'être seul dans votre barque et d'avoir été abandonné par Dieu, un Dieu qui vous semble lointain, inaccessible, étranger à vos difficultés et aux malheurs de ce monde. Mais Dieu vous voit, Dieu nous voit. Son Esprit, le Saint-Esprit, se meut encore sur la mer de notre humanité. Cette humanité toujours agitée par les tempêtes des adversités et des épreuves de toutes sortes. Dieu les voit, il les connaît. Dieu, le Créateur de toutes choses, dans sa personne de Jésus-Christ Sauveur, n'est pas indifférent à nos batailles et à nos malheurs. Il n'est pas indifférent aux souffrances des hommes. Il les a lui-même vécues dans sa vie d'homme. Plusieurs fois, alors que nous ramons contre le vent contraire des adversités de notre vie, il va passer près de nous, prêt à monter dans notre barque. Mais nous, le voyons-nous? Le reconnaissons-nous? N'avons-nous pas peur de lui? Nous le connaissons encore si peu ou si mal. Pourtant, il ne veut que se faire connaître de nous par sa parole et son esprit. Et il veut monter dans la barque de notre vie, apaiser les tempêtes de difficultés que nous affrontons. Sommes-nous prêts à l'accueillir et à le laisser prendre les commandes de notre existence ? Pour conclure ce moment de partage autour de l'évangile de Marc, je vous invite, si vous le souhaitez, à prier. Avec les paroles d'un cantique que chantaient nos pères, comme l'annonce le disque de la mission Timothée. Quand gronde la tempête sur l'onde sans limite, mon cœur épouvanté redoute l'ouragan. Seigneur, viens à mon aide, ma barque est si petite, si grand est l'océan. Seigneur, à ta parole, soudain, l'effroi me quitte. Le flot tumultueux s'apaise en un instant. Seigneur, sois ma boussole, si grand sont ma faiblesse et mon égarement. La vague fait silence, l'étoile au ciel palpite qui se lève au matin dans le cœur du croyant. Joyeux, mon chant s'élance, ma foi est si petite, mais toi, Seigneur, si grand. Que Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit vous fasse du bien selon lui, qu'il prenne place dans la barque de votre vie, qu'il vous accorde son secours et sa paix. Amen.
Quand gronde la tempête sur l'onde sans limite, mon cœur épouvanté redoute l'ouragan.
Ainsi s'achève ce service protestant avec Marie-Christine Perry, prédicatrice pour l'Église protestante unie de France en région parisienne. Merci à Ghislaine David et à Pierre Henry pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Pour recevoir le texte de cette émission, c'est tout simple, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Et bien sûr, vous pouvez retrouver la réécoute et le texte de cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour Culture protestante. Juste avant, je vous annonce que ce mois d'octobre est marqué par les 500 ans de la Réformation et que la Fédération protestante de France vous invite, vous donne rendez-vous à Strasbourg à la fin de ce mois, les 27, 28 et 29 octobre, pour faire mémoire de ces 5 siècles de réforme au pluriel sous le signe de la fraternité. Ce sera Protestants en fête 2017. Vous pouvez trouver d'autres informations sur le site Protestants au pluriel 2017. Je vous retrouve tout de suite pour Culture protestante.
Seigneur, à ta parole, soudain les fois me quittent. Le flot tumultueux s'apaise en un instant. Seigneur, sois ma